Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr.
Kupanda ndege yenu sijui mnasema ile wachawi ungo.
Hiyo mimi si imeze ipandaji ile. Mimi napaa zangu kama samaki.
Unakuwa unakimbia kama nini?
Tembea taratibu lakini ile na mimi ndio inaenda force.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à la BD africaine avec Yao Visa Refusé, un album de Didier Viaudet paru chez l'Armatan BD. Une rencontre avec Alix Fouilou, fondateur de la revue Afrobulle. Et enfin, Pour une couleur de peau, édité par l'Armatan BD, dessiné par Martin Yengola, Joseph Dany Niembi et Nathanaël Ejob, et scénarisé par Christophe Edimo, que nous retrouvons en interview. Pour causer BD africaine, d'ailleurs il va surtout causer tout seul dans cette émission parce que c'est notre grand spécialiste du sujet, même s'il n'aime pas qu'on l'appelle le spécialiste. Voilà, ça lui rappelle des films français des années 80. Hein, voilà. Mais bien sûr, il y a un personnage étrange. Il est là dans ce studio, il est face à moi. Il n'est doté d'aucun cheveu et pourtant la nuit il se transforme en loup-garou picard. Son système pileux se développe alors de manière complètement immodérée. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland, donc dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe, pour le site cultureaupoint.com, voire qui sévit dans l'émission à l'écoute du cinéma sur Radio Campus Amiens. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland, je l'ai déjà dit, je veux bien sûr parler de Thomas Roland, mais alors du coup je veux bien sûr parler de Thomas Roland. Salut Thomas Roland.
Bonjour Jérôme Potier, et bien évidemment, bonjour à toutes.
Eh bien Thomas, surtout ne lâche pas le micro, puisque je sens que tu es chaud comme la braise là pour nous parler un peu de tes derniers coups de cœur en matière de BD africaine, puisque ça fait maintenant quelques années que pour l'émission, tu explores comme ça la BD africaine qui, en fin de compte, reste assez peu connue dans l'Hexagone.
Oui, les bandes dessinées d'auteurs africains restent peu connues, restent plutôt marginales et réservées à une certaine... À certains cercles, mais j'ai pu rencontrer il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a quand même une bonne année, hein, Alix Fouilou, qui est l'un des précurseurs de la bande dessinée en République démocratique du Congo, et qui a fait l'école des beaux-arts de Kinshasa en section peinture. Au lycée, il avait déjà créé un journal scolaire, IBA Press, et il arrivait en France dans les années 80. Il édite d'abord des albums collectifs aux éditions ABDT, des histoires de sensibilisation, Boulevard Sida, du Chitozen, Route de Dingue, avant de créer sa propre association Afrobulle en 2002. Et en plus de ses activités d'auteur de bande dessinée, il anime des ateliers pour les enfants et les adultes. Et par l'intermédiaire de son association, il publie des magazines qui proposent deux petites histoires de quelques pages écrites et dessinées par des BDastes africains. Mais seulement, peut-on parler de bande dessinée africaine?
Nous, tous les auteurs africains, tous les acteurs de la bande dessinée africaine, nous pensons que oui, on peut parler de la bande dessinée africaine. Ça peut être considéré comme ça, la bande dessinée africaine, parce que c'est une bande dessinée qui existe. Ça existe parce qu'il y a des acteurs, il y a des auteurs qui la réalisent, il y a des structures qui font de la promotion de cette bande dessinée, il y a des maisons d'édition qui existent, il y a des manifestations qui existent, et il y a des revues, des journaux, et il y a des critiques en fait qui sont là aussi pour commenter, pour parler de cette bande dessinée africaine. Parce que bande dessinée africaine, tout simplement, ça désigne en fait les bandes dessinées qui sont produites en Afrique, ou alors en Europe, mais par des auteurs africains. Alors quand je parle des auteurs africains, ce n'est pas forcément des auteurs qui sont nés en Afrique, c'est des auteurs européens, parce que dans le groupe chez Afrobul, il y a des auteurs européens, mais qui parlent de l'Afrique en fait. Pourquoi alors on parle de la bande dessinée africaine? Parce qu'en fait, c'est le thème de prédilection de tous ces auteurs-là, c'est l'Afrique. On veut parler de l'Afrique, on veut parler de la culture africaine, l'histoire africaine. En fait, c'est vraiment l'Afrique qui est la base. Les thèmes de prédilection de nos bandes dessinées. Si on peut parler de différentes bandes dessinées qui avaient été faites avant que nous arrivions avec cet esprit BD africaine, il y avait des bandes dessinées qui avaient été réalisées avant. Hergé en avait réalisé, le dessinateur de Tintin en avait réalisé. Si on voit Tintin au Congo, si on voit d'autres dessinateurs de son époque, avec des bandes dessinées comme Jimmy Tout Seul, c'est une série qui se passe en Afrique, au Congo-Brazzaville. Et puis il y a d'autres bandes dessinées. Il y a pas mal d'auteurs qui ont travaillé sur des bandes qui ont réalisé des bandes dessinées dont l'histoire se passe en Afrique. Mais est-ce qu'on va appeler ça de la bande dessinée africaine? Moi, je pense que non. Je pense que non, parce que parler de la bande dessinée africaine, il faut vraiment que les gens qui y travaillent, que les acteurs puissent vraiment savoir de quoi ils parlent, qu'ils aient en fait cet esprit vraiment en fait africain. Donc, parce que nous sommes, pour la plupart, nous sommes nés en Afrique, nous avons grandi en Afrique, nous connaissons cette histoire africaine, nous connaissons en fait, donc en fait on sait parler de ce que nous connaissons, ce que nous avons vécu, ou ce que nous vivons, hein, d'ailleurs, pour les auteurs qui sont encore là-bas. Nous autres sommes ici, mais il y a des auteurs qui sont encore en Afrique, qui publient, hein, chez Afrobul, mais qui habitent encore là-bas en Afrique. Et si on accepte qu'il y ait la bande dessinée japonaise qu'on appelle le manga, je pense qu'on doit aussi accepter la bande dessinée africaine. Je pense que c'est pareil. Parce que là, maintenant, on est en train de voir des jeunes qui commencent. Il y a des jeunes qui parlent, qui écrivent en japonais, qui apprennent la culture japonaise et tout ça. Tout ça a commencé par le manga, en fait. Hein. Ils sont influencés par le manga. Et ben, nous aussi, si on veut que les jeunes qui sont nés ici, qui ne connaissent pas l'Afrique, qui puissent connaître l'Afrique, je pense qu'ils auront aussi cette influence sur la bande dessinée que nous sommes en train de présenter. Et cette bande dessinée parle de la culture africaine, nous parlons de tout tout notre vécu africain.
Singa, 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 singa Singa baka, singa, singa yeah, singa, singa loketo, singa, singa yeah, singa, singa okoko, singa, singa yeah, singa, singa, singa baka yeah, singa, singa, singa yeah, singa, singa okoko, singa, singa yeah, singa, singa baka, singa. Singa yeah, singa, singa loketo, singa, singa yeah, singa, singa okoko, singa, singa yeah, singa, singa, singa baka yeah, singa, singa, singa yeah, singa, singa okoko, singa,
singa okoko,
singa yeah, singa,
singa,
singa baka, singa, singa yeah.
Vous écoutez Alix Fuilou, fondateur d'Afrobulle, au micro de Culture Prohibée.
Je me souviens quand j'étais à l'école de Beaux-Arts de Kinshasa, à cette époque-là, il n'y avait pas... C'était dans les années 80 et tout. Hein. Il n'y avait pas vraiment, à l'école de Beaux-Arts, il n'y avait pas un cours spécial bande dessinée. Donc nous, moi je sais que dans ma promotion là-bas au Beaux-Arts, on était combien, 6-7 tout simplement, de toute l'école de Beaux-Arts qui faisions de la bande dessinée. Mais cette bande dessinée à l'époque, nous on la faisait comme ça, en autodidacte. Je me souviens même, j'avais même mon prof de graphisme qui à l'époque nous disait, mais vous passez votre temps à faire de la bande dessinée, tout ça, vous savez est-ce que ici ça va marcher et tout ça. Bon, mais là, au moment où on parle, ah oui, ben l'Afrique bouge avec la bande dessinée. J'ai même des copains qui m'ont envoyé pas plus tard qu'hier, ils m'ont envoyé un message. Ils étaient au festival de la bande dessinée de Tétouan au Maroc. Et là, ils partent au Congo. Moi, j'ai grandi avec des bandes dessinées de Spirou, du Marsupilami et tout ça. Là. Mais après, quand je suis arrivé ici en Europe, j'ai essayé déjà de développer cela comme on faisait là-bas. J'arrive ici en Europe, quand je suis arrivé, il y avait pas, on n'était pas nombreux qui faisaient de la bande dessinée. Je suis arrivé en Europe, moi, en 87. Et à cette époque, moi, j'ai continué mes études à l'école de Beaux-Arts de Tourcoing. Avant d'aller là, c'est même mon prof de graphisme à Tourcoing qui m'a conseillé d'aller en Belgique pour aller me spécialiser en bande dessinée. Il a vu mon style de dessin, il m'a dit, toi, il vaut mieux que tu t'orientes vers la bande dessinée. Il m'a dit, toi, tu aimes bien raconter des histoires, et puis voilà, ton style de dessin vraiment est marqué par la bande dessinée. Et celui qui m'a dit, essaye d'aller, il m'a conseillé l'école des Beaux-Arts de Bruxelles. Hein. Et je suis allé là-bas, ça a marché, et donc j'ai fait mes études là-bas. Et je me suis spécialisé en bande dessinée là-bas en Belgique. C'est là que j'ai connu pas mal de gens. Mon prof de bande dessinée là-bas, c'était un ancien des éditions du Lombard qui dessinait Benjamin. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent la bande dessinée, qui dessinait Benjamin aux éditions du Lombard. C'est une bande dessinée qui avait un certain succès aussi. Alors lui aussi m'a vraiment beaucoup encouragé, il m'a beaucoup aidé d'ailleurs hein, pour que je puisse travailler mon style, et il est le premier à avoir repéré mon personnage que vous voyez là, ça. Je l'avais déjà commencé quand j'étais à l'école de Beaux-Arts de Bruxelles, mais à l'époque c'était encore un personnage, il n'était pas vraiment abouti comme ça. Alors c'est lui qui, quand il a vu ça, mon personnage avec des tresses et tout ça, il a dit, ah tiens, c'est rigolo, et il m'a envoyé voir un éditeur. D'abord j'avais vu deux ou trois éditeurs, à l'époque c'était, je suis allé chez Tintin, j'ai vu, il y avait un magazine, il y avait une revue à l'époque qui faisait un peu la promotion des auteurs des éditions du Lombard, c'était le magazine à suivre. Je pense qu'il y a quelques-uns qui connaissent. Alors, je suis allé voir le directeur de publication de ce magazine-là à suivre. Il a vu mes dessins, il faut qu'il me dise, ils étaient, moi je suis allé le voir à Paris, à leur bureau de Paris. Quand il a vu mes dessins, il me dit, ah non, 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 ça, ces dessins-là, qui va lire des bandes dessinées comme ça et tout. Ah, il a pas accepté. J'étais voir Spirou, pareil. Il n'y a personne qui a accepté mes dessins et tout. Bon, j'étais découragé à l'époque et c'est là que mon prof m'a orienté vers un éditeur à l'époque qui s'appelait les éditions, en fait, les éditions Eliode. Et l'éditeur s'appelait Monsieur Verhofstadt. Hein. J'ai encore son nom, c'était dans les années 90, hein, 92 en fait. Et quand je suis allé voir cet éditeur-là, à Bruxelles, pour ceux qui connaissent Bruxelles, c'est à la place Rogier à Bruxelles. Et quand il a vu mon personnage là, il m'a dit, ah mais tiens, c'est rigolo, ce personnage-là peut intéresser des enfants. Ah, ça a commencé. Et il m'a dit, travaille bien ton trait, ton style, il faut vraiment que tu développes ça. Mais ça peut m'intéresser, ça. En Afrique, donc ça a commencé un peu à bouger. Il y avait des concours, il y avait des organismes en fait ici, en fait il y a pas mal de fondations, des choses comme ça, et puis des organismes comme la Maison de la Francophonie, en fait tous ces organismes-là, et la Croix-Rouge internationale qui réalisait en fait des petites fascicules, bandes dessinées pour véhiculer en fait leur message, et ils sollicitaient des auteurs qui étaient en Afrique en fait. À chaque fois ça se passait comme ça, c'est des concours, on fait participer des auteurs qui sont en Afrique pour réaliser des petites bandes dessinées comme ça, et ça commençait à bouger là-bas en Afrique. Et moi qui étais ici en Europe, comme je vous ai dit, je montrais en fait mes bandes dessinées. Et dès que j'ai commencé à avoir des encouragements comme ça, j'ai dit, je vais y aller en fait. J'ai été vraiment réconforté par cet éditeur-là. Et donc, c'est là qu'était parti en fait je suis vraiment parti pour m'orienter, vraiment faire de la bande dessinée. Que ce soit pour l'édition des livres classiques ou bande dessinée, que ce soit de maisons de production, de cinéma, des choses comme ça, en Afrique, il y a toujours ce problème-là, en fait. Des gens qui puissent, ou que ce soit comme des mécènes, ou des gens qui viennent pour encourager, pour mettre des sous, pour encourager l'art en Afrique, c'était toujours ce problème-là qui arrivait. Comme la bande dessinée n'était pas en reste, hein. Donc il y avait aussi ces problèmes de maisons d'édition. Il y avait des auteurs qui commencent vraiment. Il y avait une éclosion d'auteurs qui se faisait à l'époque-là, mais il n'y avait pas de maisons qui pouvaient les éditer. Et donc, du coup, ils commençaient à s'organiser en fait en association. Donc, il y avait des associations comme Bulle d'encre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il y avait une autre association, BD Boom, au Gabon. Et il y avait Akria au Congo-Kinshasa. Et il y avait l'association Malagasy, Gassibul, au Madagascar. Et c'est comme ça, en fait, que les auteurs en fait, essayaient de se prendre en charge, en fait.
samba, banyama bakoliela, walai tokoliela, 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 awa na kati ya samba, banyama bakoliela, walai tokoliela.
Ici en Europe, nous, on a commencé aussi à s'organiser. Alors, on commençait à s'organiser, mais là, je vais vraiment vous dire, je vais être sincère avec vous, on a commencé à s'organiser, mais les copains que j'ai, moi quand je suis arrivé, on n'était pas, j'ai dit tout à l'heure, on n'était pas nombreux, surtout ici en France, on n'était que deux à l'époque, ici en France. Il y avait moi et il y avait un autre éditeur, auteur de Congo, de Kinshasa, qui s'appelle Serge Diantantou, qui travaille d'ailleurs, qui est là, qui a pris un thème de l'esclavage, hein, qui travaille vraiment une bande dessinée sur l'esclavage. Hein. Alors, on n'était que nous deux ici en France, Serge et moi. En Belgique, il y avait Barli Barouti, et puis en Allemagne, il y avait Maillot, mais vraiment, il n'y avait pas beaucoup de terre. Après, Simon Pierre Mbumbo du Cameroun est arrivé avec le scénariste Christophe Ngalé-Dimo, qui est du Cameroun aussi, ils sont arrivés, et à cette époque-là, et là, je suis en train de voir, c'est en 1995-96, hein. Donc voilà, on commençait un peu à se retrouver comme ça. Et c'est moi qui ai eu l'idée de lancer en fait une structure qui puisse promouvoir la bande dessinée africaine.
Alix Fouilou crée d'abord une structure lui permettant de faire des ateliers avec les enfants, puis des expositions pour enfin déboucher sur des publications.
Quand on s'est réunis, on a dit, moi j'ai dit, mais pourquoi on ne ferait pas... Pourquoi on n'en ferait pas une maison d'édition? Pourquoi on n'en ferait pas en fait? Ce n'était pas une maison d'édition, mais c'était tout simplement qu'on crée une publication qui soit en fait une revue, qui soit un tremplin en fait des auteurs africains qui puissent montrer en fait ce qu'ils font aux éditeurs ici, en fait au public européen, en fait aux Français d'abord. Et puis c'était parti comme ça. Et puis après on a commencé à travailler sur le premier numéro. Le premier numéro d'Afrobulle. À chaque fois qu'on publiait un numéro, on donnait en fait un sous-titre qui s'appelait Couleur Café. Ce premier numéro s'appelait Couleur Café. Donc il y avait la participation des auteurs du Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Gabon, il y avait des auteurs camerounais, il y avait des auteurs marocains. Donc ça a fait vraiment un collectif.
En effet, certains numéros d'Afrobulle sont thématiques. Parmi lesquels on peut trouver un numéro consacré à la bande dessinée malgache, La Piste Malagasy, avec des auteurs tels que Didier Randria Manantena, Fenosoa Ratovo Nianina, Jean de Dieu Rakoto Solofo, Aimé Razafi. Au départ, le nom de la maison d'édition d'Alix Fouilou s'appelle Les Éditions du Palmier Vert. Sous les conseils du directeur de l'époque des éditions Glénat, Alix Fouilou change le nom en profit d'Afrobulle.
Les éditions Afrobulle, ce n'est pas forcément publier des auteurs africains, mais même ici, les éditions Afrobulle peuvent publier des auteurs européens, de tout, mais le thème reste l'Afrique. Il y a même des auteurs italiens, mais qui ont, à un moment, qui ont résidé en Afrique, qui ont vécu en Afrique, et qui connaissent un peu l'histoire de l'Afrique.
Parmi les autres auteurs issus d'autres pays, il y a quelques noms connus, comme Florent Kouaozoti, auteur béninois, entre autres de Polar, Philippe Sternis ou encore Bati Asimba. Les thèmes sont variés, mais il est quand même souvent question du sida, dans des intrigues plutôt didactiques et de sensibilisation. Mais on trouve aussi des histoires plus drôles, où il est question de sorcellerie et de coucherie. D'autres évoquent l'esclavage, les mythes et légendes de la région de l'auteur.
L'idée d'Afrobulle, pas mal de gens, moi, ont voulu m'influencer sur une certaine idée, des éditeurs, hein, des éditeurs qui m'ont dit, ou même d'autres auteurs européens, qui m'ont dit, mais Alix, est-ce que ton... oui, mais... tes BD, est-ce qu'ils sont, ils sont vendus en Afrique et tout ça, pour les jeunes africains et tout ça. Bon, c'est vrai, nos BD ne sont pas forcément vendus. Bon, c'est vendu en Afrique, dans, ben, pour différents endroits, mais c'est pas vraiment vendu en Afrique comme ici. Hein. Parce que, bon, moi j'ai dit toujours une chose. J'ai dit, l'idée c'est quoi ? Quand moi je suis ici en Europe, je vais parler de l'Afrique, les histoires que je parle de l'Afrique, les Africains, ils les connaissent déjà ces histoires-là. C'est pas la peine de commencer à faire l'histoire, la situation sur le sida qui se passe à Kinshasa. Je publie ici, j'envoie à Kinshasa, mais ils le savent déjà, cette situation-là. Je veux, moi, expliquer des choses de l'Afrique ici, aux Européens ou aux jeunes Africains qui sont nés ici, qui ne connaissent pas ce qui se passe en Afrique. Donc c'est raconter les histoires d'Afrique, les raconter, faire connaître, en fait, les choses qui se passent en Afrique. C'est ça l'idée, en fait, d'Afrobulle. Publier des choses là-bas, des histoires qui se passent là-bas, il y a des auteurs qui sont là-bas, qui sont en train de faire ça là-bas, sur place. Bien qu'ils n'ont pas de bouquins de qualité, de cette qualité-là, mais ils arrivent quand même à publier de niveau artisanal, en fait, comme ils arrivent, mais en fait, ils sont en train de publier quand même des revues, des bandes dessinées qui sont lus là-bas.
Un numéro intitulé « Vive volée » est axé sur la situation des femmes, notamment en RDC, à travers trois histoires. Alix Fouilou se base sur l'histoire de sa cousine pour évoquer le viol.
Ce qu'elle m'a raconté, ma cousine, j'ai écrit le scénario, mais j'ai écrit exactement comme elle me l'a raconté, mais moi j'ai essayé de scénariser ça. Après, j'ai fait mon storyboard, croquis et tout ça. Je lui ai envoyé parce que je ne pouvais pas travailler, aller jusqu'au bout, tant que bon, il fallait qu'elle puisse approuver, qu'elle puisse voir et tout ça. Je lui ai envoyé. Ah, quand elle a vu que je commençais à travailler, elle a vu les croquis que j'ai fait, elle a vu que c'est... Bon, parce que les croquis ne montrent pas que c'est elle et tout ça. Quand elle a vu, elle me dit, ok, c'est bon, tu peux travailler et tout ça. Ah, c'est là que j'ai travaillé, puis on a travaillé sur ce projet-là. On ne va pas travailler que sur l'histoire de ma cousine. Parce que j'ai dit, mais il y a plein de jeunes filles, de femmes qui sont victimes de ça, en fait. Et on voulait vraiment parler de ça, que ça soit quelque chose en général. Et c'est là que, comme j'ai lu aussi le rapport de cette dame de la Croix-Rouge, j'ai contacté en fait la Croix-Rouge, la cellule de Kinshasa. J'essaie de voir avec eux, je leur ai expliqué le projet qu'on avait. Et on voulait avoir en fait des témoignages de femmes qui ont subi ces violences-là. Et c'est là qu'ils nous ont accordé justement, ils nous ont dit « Ok, on peut travailler là-dessus ». Ils ont vu que notre projet était sérieux, et puis on a commencé à travailler. Ils nous ont envoyé, bah, d'une façon anonyme, hein, des témoignages de femmes qui ont subi des violences, ce genre de choses, et tout ça, par des milices de tous bords, hein, qui arrivaient tout comme ça, dans des villages, des choses comme ça. Et on a vu qu'il y avait les trois histoires qu'on avait prises, c'était des histoires qui revenaient, en fait, plus souvent. Et c'est pour cela qu'on a pris même l'histoire de ma cousine, là. Elle n'était pas la seule, il y avait trois ou quatre personnes qui ont subi ça.
Deux histoires complètent ce numéro, une signée Didier Kassai, un auteur originaire de Centrafrique qui évoque la condition de certaines femmes dans un univers assez patriarcal. Une dernière histoire signée Alain Cogelet, un auteur de Kinshasa qui évoque le destin des femmes violées par les milices armées à l'est de la RD Congo. En même temps, il évoque cette guerre qui secoue l'est du pays à cause notamment du coltan, ce minerai utilisé pour les mobiles et les ordinateurs et dont on parle finalement peu, alors que le nombre de morts se compte en plusieurs millions depuis plus de 20 ans. Afrobulle est une revue plutôt difficile à se procurer, mais je pense que dans les librairies spécialisées dans les bandes dessinées, on peut se renseigner pour savoir s'ils peuvent commander des numéros auprès d'Alix Fouilou, qui vit plutôt dans le nord de la France, entre Lille et l'Oise, je ne sais plus trop.
Mi arruero,
Après un auteur qui vient de la République démocratique du Congo, mais qui ne vit pas très très loin de chez nous, en fin de compte, mon cher Thomas, qui vit dans nos terres, voilà, eh bien, on va s'intéresser à une BD signée par un auteur vivant en Côte d'Ivoire et d'origine béninoise. Je veux parler, bien évidemment, en tout cas pour les initiés, de Didier Viodé, qui vient de faire paraître chez l'Harmattan BD, enfin, il y a quelque temps, puisque le temps que vous écoutiez l'émission, il y a toujours un décalage entre le moment où on enregistre et le moment où vous l'écoutez, une BD qui s'appelle donc « Yao, visa refusé ». Didier Viodé, qui n'est pas que bédéaste, hein, bédéaste d'origine béninoise, qui vit en Côte d'Ivoire, mais qui est un artiste, un véritable artiste visuel, qui est un artiste peintre, il est photographe, il est vidéaste, il a étudié à l'Institut National de Supérieur de l'Art de l'Action Culturelle à Abidjan, il obtient le DNSEP de l'École des Beaux-Arts de Besançon en 2007, et reçoit la même année le prix Arica et Mediterraneo en Italie. Donc il expérimente entre autres la peinture minimaliste, l'action painting, la photographie avant de s'essayer aux techniques du time-lapse et de l'hyperlapse. Il peint aussi une série de tableaux intitulée Les Marcheurs suite au débat sur l'immigration. Et les émeutes qui ont secoué la Côte d'Ivoire l'amènent à coudre un drapeau mal confectionné intitulé France-Ivoire. En 2009, il filme directement sur son écran de télévision l'investiture de Barack Obama et intitule cette vidéo « Témoin » et qui remet en question la place de l'homme noir dans la société américaine et européenne. Avec Ayo, visa refusé, il reprend le personnage de Ayo, un artiste peintre qui essaye de vivre de son art et qui apparaît déjà dans son précédent album « Vive la corruption », lui aussi publié chez l'Harmattan BD. À travers ce personnage, il évoque les thèmes de l'immigration, des rapports entre le Nord et le Sud, il décrit la vie quotidienne en Afrique, les mœurs, la débrouillardise. L'album se présente sous forme de petites histoires, le fil rouge étant la détermination de Yao à obtenir un visa pour la France. Car depuis qu'il a entendu Sarkozy parler d'immigration choisie, d'inviter des artistes, Ayo n'a qu'une idée en tête, exposer ses œuvres en Europe. Didier Viodé parle de la difficulté d'être artiste en Afrique, d'en vivre, et pour cela, use de la caricature tant dans la forme que dans le fond. S'il se montre acerbe dans sa critique et ce qu'il dénonce, le ton n'est jamais au mépris ou à la méchanceté. Le dessin se rapproche bien sûr plus du dessin de presse, avec des personnages qui ont des gros nez, des gros ventres, des formes marquées pour les femmes, et ils évoluent dans des situations ubuesques. Ainsi, on évolue dans les maquis, dans les rues qui sont bien restituées, mais aussi au consulat français où lui est systématiquement refusé le sésame pour pouvoir aller en France. Évidemment, Yao redouble d'imagination et d'inventivité pour avoir son visa, et Didier Viodé en profite pour montrer les inégalités de traitement, les régimes de faveur. Il met aussi en évidence la difficulté d'être, de pouvoir s'imposer auprès des autres dans une société où le paraître et la position sociale priment sur ce que l'on est vraiment. Le tout étant donné que ce sont des petites histoires de parfois 2, 3, 4 planches, fait un peu compilation, manque un peu d'homogénéité malgré la pertinence des analyses et les situations ici dénoncées. Certains gags font mouche, mais d'autres tombent un petit peu à plat.
Nous allons rester chez Narmatan BD et on va aller à la rencontre d'un scénariste qui s'appelle Christophe Edimo. Christophe Edimo, donc, qui est le scénariste de Pour une couleur de peau, donc édité chez Narmatan BD, qui est une bande dessinée dessinée donc par Martin Yengola, Joseph Dany Niembi et Nathanaël Ejob. Et Thomas, donc, tu es allé à la rencontre de Christophe Edimo.
Christophe Edimo, qui est un scénariste d'origine camerounaise, mais qui vit en France, qui est né en France et qui vit en France, qui est éducateur. Il est éducateur, donc c'est un scénariste qui est très marqué par les thèmes, tout ce qui se rapproche de thèmes sociaux ou politiques, et ça se sent énormément dans ses bandes dessinées. On a déjà parlé de bandes dessinées scénarisées par Christophe Edimo dans l'émission, notamment Les Tribulations de Alphonse Madiba Didodé, dont on attend le troisième tome qui devrait normalement bientôt paraître. Et aussi une BD que j'ai beaucoup aimée, Mamie Denis qui s'évade de la maison de retraite, qui a été dessinée par Hajim Dangar. Une excellente bande dessinée, très drôle, avec un petit peu de fantastique dedans, avec un trait vraiment, vraiment personnel de la part d'Hajim Dangar. Donc, Christophe Ngalé Edimo ne trahit pas son implication dans un engagement artistique avec Pour une couleur de peau, une bande dessinée toujours parue chez Narmatan qui parle cette fois de l'albinisme. Donc, on suit le parcours d'Agnès, qui naît albinos et qui va subir... son statut d'albinos auprès du regard des autres dans un Cameroun qui subit le commandement opérationnel. Le commandement opérationnel, c'était une brigade qui est un peu flinguée, un peu à tout va, tout le monde et n'importe qui sous prétexte de lutter contre l'insécurité. Elle va subir le regard des autres, la famille, les mythes, les légendes autour de l'albinisme. Et c'est une BD qui a la particularité d'être dessinée par trois dessinateurs différents. Donc il y a trois chapitres et chaque chapitre est dessiné par un dessinateur différent. Alors, ce qui fait qu'il y a un mélange de styles évident qui est pas forcément, du coup, niveau qualitativement, enfin, on ne peut pas forcément adhérer aux trois styles différents, ce qui est mon cas. Moi, j'aime bien le premier, j'aime bien le troisième, mais celui du milieu, je suis un peu réservé. Et surtout, j'ai l'impression... Que la BD a subi au niveau de sa confection, de sa création, quelques soucis matériels. Et parfois, il y a des petites incohérences qui se glissent comme ça dans les dessins, dans la continuité du récit, qui fait que y a des moments où on est obligé de retourner derrière pour dire « Tiens, mais j'ai pas vu ça ». Mais ceci dit, c'est quand même une BD de plutôt bonne qualité et qui est à lire, qui est importante par rapport au problème de l'albinisme en Afrique. Christophe Edimo, c'est un très bon scénariste qu'il faut suivre, à mon sens.
L'avenir est tracé et tout est prédit. Je suis pas venu au monde pour rembourser des crédits. Le cercle est fermé comme le logo d'Audi. C'est dans la violence qu'on a grandi. On n'est pas des voyous ni des bandits. Que des mecs de cité, des fois un peu perdus. Casser la routine du lundi au lundi. T'es comme un athée qui pense au paradis. On me répétait souvent que j'étais maudit. Que être albino c'était une maladie. Tu penses faire du mal à qui? Est-ce que tu savais ce que j'ai ressenti? Ça m'a rendu nerveux, très méchant. Écoute ton cœur, écoute pas les gens. On vise la tête et pas les jambes. Fais le fou, tu verras. On te fait regretter ta naissance. Voiture noire, cagoule noire. C'est comme ça on prépare une vengeance. Et ma cote est en hausse, comme le prix de l'essence. On parle de violence, armes, drogue. On parle jamais des conséquences. Sombre, gang. Sombre, gang. Sombre, gang. Sombre, gang. Sombre, gang. Sombre, gang.
Le respect, l'honneur et les couilles n'ont pas de prix. Par contre l'amour s'achète et ça je l'ai compris. Fini l'époque comme on regarde avec mépris. Je vois mon entourage faire des va-et-vient, on s'en prie. Je regarde le soleil qui se couche. Je suis violent comme un fer, ta gueule vide tes poches.
Tout le monde par terre. Par terre. Je veux tout le monde par terre.
Quand j'étais petit au Cameroun, et que j'arrivais à bien travailler à l'école, bon, ce qui n'était pas tout le temps le cas, j'avais une récompense. Donc cette récompense était Astérix ou Lucky Luke. Et donc ça m'a marqué. Ça m'a marqué depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai essayé le dessin jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'étais pas bon. Donc, une petite anecdote, j'ai dessiné quelque chose, une petite fille vient regarder et elle vomit, donc je me dis, il va falloir que j'arrête. Et donc j'ai arrêté. Et donc, quand je tenais toujours ce média-là, je me suis dit, ah, mais tiens, pourquoi pas plutôt l'écriture de scénarios. Et donc, avec l'écriture d'Astérix, notamment, donc, j'avais une admiration pour Goscinny, donc c'est parti de là. Par ailleurs, bon, je suis éducateur, hein, donc ce qui fait que les situations sociales difficiles, je connais bien, enfin relativement bien. Qu'elle soit située en France ou en Afrique, la situation sociale m'ont toujours fait réfléchir. Et c'est la raison pour laquelle sont apparus ces projets tels que Mamie Denis, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait du troisième âge? On les met souvent dans des zones de rééducation parce qu'on ne veut pas réfléchir à un accompagnement correct. Et qu'est-ce que c'est en Afrique cette culture basée plus ou moins sur l'obligation de réussite qui entraîne du mensonge, qui fait que beaucoup d'immigrés se retrouvent coincés en Europe. Bon, c'est le cas de Madiba. Donc c'est une situation sociale, effectivement.
Cette bande dessinée pour une couleur de peau, elle parle bien évidemment de la différence avec ce personnage qui naît albinos, mais on peut aussi voir quelque chose sur la condition féminine en général. Et comment vous est venu ce sujet? Pourquoi ce sujet tout d'un coup?
Ça part de la réalité. C'est-à-dire, j'ai une amie qui est albinos. Elle est d'un très bon niveau social. C'est-à-dire que ses parents sont très riches. Et ce qui se passe, c'est que les albinos, donc, ils ont beaucoup de problèmes. Hein. Ils ont une fragilité de la peau. L'albinisme crée aussi parfois des fragilités au niveau des poumons, voire au niveau du foie, ce qui fait que leur santé est naturellement fragile. Avec le réchauffement climatique et puis le fait que la couche d'ozone n'est plus protectrice, le nombre de cancers de la peau s'est multiplié, donc il y a beaucoup de décès chez les albinos. Et au niveau scolaire, ce problème visuel fait qu'il est nécessaire qu'ils soient au premier rang, voire même que les bancs sur lesquels ils sont assis à l'école soient avancés. Même s'ils ont des lunettes, ça ne suffit pas. Or, dans les écoles au Cameroun, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire, vous n'êtes pas assis où vous voulez. Donc, et en plus, ce sont des classes prévues pour 30 ou 40 personnes. Mais en réalité, vous avez 100 ou 120 élèves. Certains sont debout dans la classe, donc c'est quand même assez dégradé comme milieu scolaire. Donc, les parents de cette copine, parce qu'ils sont riches, ont donc acheté le banc sur lequel elle pouvait s'asseoir, au premier rang. Et donc, ils l'ont acheté pour elle, mais aussi pour une copine non albinos. Et les deux bancs qui étaient derrière étaient également achetés, ce qui faisait un petit groupe, finalement, de 6 ou 8 copines et copains. Pourquoi les parents faisaient ça? Non seulement pour qu'elle soit au premier rang, mais aussi pour qu'elle ne soit pas isolée, et pour qu'elle ne soit pas prise en grippe par les autres garçons qui pouvaient avoir peur des albinos dans la cour de récréation. Ça lui a fait une protection, en même temps ça lui a fait des amis. Et finalement des amis pour la vie. En voyant ça, bon, on se rend compte que la vie des albinos est très compliquée. Parce que la plupart n'ont pas des parents riches pour les protéger. Donc je me suis intéressé à cette question-là. Et j'ai continué à creuser. Puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, il est temps de faire une dessinée sur ce sujet-là. Même si le Cameroun n'est pas dans la situation catastrophique de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud, voire même du Mali, où là, les alminos, ils en prennent très cher, quand même, au niveau social, ne serait-ce que par le revers social négatif, les alminos prennent cher au Cameroun déjà.
Pas vos machins de poupées là.
Fallon m'a dit, la petite perle. Hommage à toutes les femmes.
Et qui est? Oh, oh, oh.
Elle est belle, 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 sans elle. Sans elle, je crains la fin du monde. En elle se refuge la vie, du berceau à la tombe. Elle porte le monde, la femme. Oh oui, la femme est une merveille. Son dynamisme nous émerveille. Avec elle, la maison s'éveille. La femme fonctionne à mon éveil. Oh, 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 yeah.
Vous écoutez Christophe et Dimo au micro de Culture Prohibée. Comment vous choisissez vos dessinateurs? Comment ça se passe, la collaboration? Comment vous... Parce que j'ai cru comprendre que vous ne travaillez jamais avec la même personne. Enfin, tout du moins, j'ai pas tout lu non plus. Mais j'ai l'impression que vous changez de dessinateur à chaque fois. Alors, comment vous choisissez?
Forcément, c'est-à-dire, il y a plusieurs possibilités. Mais il faut tenir compte des engagements des uns et des autres. Parce que parmi ceux avec qui je travaille, il n'y en a qu'un. En fait, c'est Almata qui essaye de vivre de la bande dessinée plutôt chichement, mais qui essaie d'en vivre. Donc avec Almata, on peut planifier une petite série. Mais sachant qu'il fait également des petits travaux d'illustration pour pouvoir vivre, voire de la peinture, on va dire qu'il est dans ce schéma-là, donc je peux travailler relativement facilement avec lui. Avec d'autres, ça peut être Fatih Kabuika, ça peut être Simon Pierre Bombo, ça peut être Adjim Nangar. Ils ont des vies tellement découpées par ailleurs dans le sentiment de la survie, parce qu'ils ne vivent pas réellement de la bande dessinée. Certains ont notre métier, d'autres n'en ont pas et donc doivent se débrouiller. Ça fait que l'emploi du temps n'est pas forcément adapté à une production de bande dessinée. Et donc, ça peut m'obliger à chercher d'autres personnes quand eux ne sont pas disponibles. Notamment Adjim Nangar, qui est un dessinateur exceptionnel, n'a encore rien montré de ses véritables qualités, qui est tellement pris par ailleurs qu'il ne peut pas. Il n'a pas la disponibilité en termes de temps pour faire une carrière digne de ce nom. Et donc, pour certains projets, je dois chercher d'autres personnes. Ça peut être en ce moment Nadej Guilbaza, avec qui on a un projet sur le Cameroun, sachant que j'ai travaillé avec elle il y a 5 ans. Et puis souvent dans la bande dessinée, y a des gens qui disent « Oui, je suis disponible, je suis capable de faire tel ou tel sujet. » Au bout d'un certain temps, on se rend compte que c'est une démarche purement alimentaire, c'est-à-dire qu'ils n'amènent rien au projet et qu'ils n'ont pas la capacité de dessiner des... personnage intéressant, qui pourrait intéresser le lecteur. Donc parfois, au bout de 2-3 mois, je suis obligé de dire, bon, il vaut mieux qu'on arrête, que je prenne le temps de chercher quelqu'un d'autre. Donc c'est pas une volonté personnelle de changer régulièrement de dessinateur, parce que si j'avais le choix, je travaillerais uniquement avec Jim Dangar.
Là, vous avez donc publié une bande dessinée sur l'albinisme pour une couleur de peau chez l'Harmattan. Et l'une des choses les plus originales de cette bande dessinée, c'est qu'il y a trois dessinateurs différents. Alors, pourquoi trois dessinateurs différents et comment vous vous êtes réparti le travail, comment vous avez travaillé?
Voilà. En fait, j'étais au Salon du Livre de Yaoundé au Cameroun l'année dernière. Et je me suis dit, bon, il serait intéressant de pouvoir travailler avec des auteurs camerounais. Parce que le seul avec qui j'ai travaillé pour l'instant, c'était Simon-Pierre Bombourg. C'était en 2009 pour un album qui s'appelle Malamine en africain à Paris, qui a été publié par les Enfants Rouges. Donc à part Simon-Pierre Bombourg, je n'avais pas travaillé réellement avec des camerounais. Parce que il y avait un manque de sérieux, un manque de professionnalisme, un manque de beaucoup de choses. Et j'avais été aussi surpris par, même si je suis d'origine camerounaise, j'avais été surpris par certaines influences. Par exemple, l'influence des sectes, voire même de l'Église catholique ultra présente dans le centre du Cameroun. Il y avait un dessinateur extrêmement doué, un aquarelliste génial et en même temps un super bon dessinateur avec qui je comptais travailler, et puis j'avais commencé à diffuser son talent à droite et à gauche pour que d'autres personnes puissent bosser avec lui. Ben, je me suis heurté à sa famille qui s'est dit, voilà, tu dessines, ça c'est l'œuvre du diable, donc il va falloir que tu arrêtes. Ils ont fait venir un exorciste, de l'eau bénite partout, des menaces. Et franchement, ce gars-là qui est ultra doué ne peut plus dessiner. Donc, je m'étais dit, bon, il faut quand même que je trouve des gens avec qui il y a moyen de travailler au Cameroun. Et d'un seul coup, j'en ai trouvé trois. Mais comme c'est leur première bande dessinée, notamment de type international, je me suis dit, il va falloir trois chapitres. Chacun fera 21 pages. Ce qu'ils ont tous les trois accepté. Et maintenant, il fallait trouver un chapitre qui corresponde à leur style graphique. Donc, pour laquelle, donc, il y a trois dessinateurs, donner d'un seul coup une chance d'être vu à trois personnes. Et d'autre part, ça permettait d'aller plus vite. Parce que quand les personnes ne connaissent pas la bande dessinée, ils vont tâtonner dans pas mal de directions. Et à distance, c'est relativement difficile de réguler. Et donc, c'était plus facile pour moi, finalement, de les réguler, sachant qu'ils n'avaient que 21 pages plutôt que 60 pour un. Bon, franchement, et à partir de cette expérience-là, je pense que 2 sur 3 ont déjà le talent pour s'imposer sur le plan international. C'est-à-dire celui qui a fait le premier chapitre, celui qui a fait le dernier. Ensuite, le choix ça provient aussi de la structuration de l'histoire. L'albinisme étant considéré pratiquement comme une tare, ça fait que les enfants albinos ont moins de chances de survie que les autres. Le dessin un peu flou, un peu gratté de Joseph Niambi correspondait parfaitement au premier chapitre. Le deuxième, donc Nathanaël et Job, c'était plus simple pour lui de traiter de l'adolescence, parce qu'il a moins de moyens techniques. En plus, il est anglophone, donc c'est un peu plus difficile de communiquer. Et c'était plus simple pour lui de traiter du deuxième chapitre. Et le troisième, donc Marcinian Gola, qui a une richesse d'expression assez grande. D'ailleurs, j'ai bien envie de faire une bande dessinée purement comique avec lui prochainement, il était plus apte pour le troisième chapitre.
J'ai aussi l'impression, en lisant la BD, que chaque dessinateur n'a pas eu les chapitres des autres dessinateurs.
Alors, si, ils ont eu les chapitres des autres, mais ensuite, il y a des soucis matériels, c'est-à-dire ils vivent à Yaoundé pour deux d'entre eux, à 100%, Et pour le troisième, il vit à moitié en zone anglophone et à moitié Yaoundé, sachant que la zone anglophone est dans un climat de guerre civile en ce moment. Donc c'est assez compliqué. En plus, Yaoundé, c'est une très grande ville où les moyens de transport sont très onéreux, où il est difficile pour tous les trois de se voir physiquement. Et en fin de compte, ils se sont relativement peu vus, malgré le fait qu'ils travaillent dans le même pays, voire dans la même ville. Et c'est vraiment dommage, mais ce qui manque réellement au Cameroun, c'est un point central, notamment à Yaoundé, un point central, où les jeunes dessinateurs pourraient se voir régulièrement et travailler sereinement. Parce que ce point central, on peut supposer qu'il existe avec l'Institut culturel français, mais cet Institut culturel français, il a été noyauté par des dessinateurs, on va dire, pas très honnêtes et plutôt brutaux par rapport à tous les autres qui sont pas dans leur système. Et comme les trois avec qui j'ai travaillé ne sont pas dans ce système un peu prédateur de l'argent public français ou camerounais, ils ne pouvaient pas s'approcher de ce centre de ralliement qui est l'Institut de France. C'est un peu difficile à expliquer, mais grosso modo, il y a un centre de ralliement et ceux qui veulent s'y rallier ne sont pas directement pris en charge par l'Institut de France, mais par une forme de mafia camerounaise qui s'appuie sur une structure créée par la France. Donc ceux qui veulent échapper à cette mafia-là ne peuvent pas s'y rendre. Donc ils sont isolés dans les quartiers, vu que le ministère de la Culture au Cameroun ne fait strictement rien. Alors il y a d'autres villes, hein. Parfois des petites villes comme Balmayo, où les dessinateurs se regroupent plus librement. Mais par contre, ils n'ont pas de moyens de diffusion, et donc ils font du porte-à-porte avec des revues de 50 exemplaires, voire 100 exemplaires, pas plus, même si parfois elles sont de qualité. Voilà, c'est un contexte un peu particulier, quoi, qui fait qu'ils ne peuvent pas se voir très régulièrement. Et donc même s'ils ont eu tous les trois l'histoire intégrale, pour échanger, pour se rendre compte que il faut quand même assurer un suivi des personnages et un suivi des décors, mais ça n'a pas été réellement bien fait. Et donc j'y réfléchis aussi pour la prochaine fois.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite et les films de la Gorgone. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Yeah.